Chapitre 4 L'échiquier des merveilles. Bon, je vais maintenant essayer de résumer ce qui s'est passé ensuite. Je sais que ça va vous paraître incroyable. C'est pourtant l'exacte vérité. Il a suffi de quelques jours pour que notre vie bascule dans la folie totale. À peine le pied posé sur la cape, les villageois sont devenus dingues. Mais, pour que vous compreniez, je dois reprendre mon récit là où je l'avais interrompu. Le soir du grand repassage de la cape, mes parents n'ont pas dormi de la nuit. De ma chambre, je les entendais aller et venir en discutant à perdre haleine. Le matin, ils n'avaient pas l'air bien frais, mais, après avoir avalé un rapide petit déjeuner, nous avons couru au verger. Le reste du village s'y pressait déjà, piétinant d'impatience. Pa avait emporté une sacoche pleine de croquis d'animaux et un plan du jardin merveilleux qu'il essayait désespérément de mettre au point depuis des années. Nous voyant rassemblés, le maire est grimpé sur une souche pour lancer un avertissement solennel. « Je vous supplie d'être raisonnable, » a-t-il grondé. Ne gaspillez pas l'énergie de la cape en vœux imbéciles que vous regretteriez par la suite. Gardez toujours à l'esprit que le géant va se réveiller tôt ou tard et que le temps dont vous disposez est limité. Il nous faudra tous être loin d'ici lorsqu'il ouvrira les yeux, car alors sa colère sera terrible. Quand vous formulerez vos souhaits, soyez assez malin pour demander des choses faciles à emporter lorsque sonnera l'heure de prendre la fuite. Sinon, vous serez forcé d'abandonner vos trésors sur la cape. Compris ? Tout le monde a hoché la tête, mais j'ai bien vu que personne n'avait écouté. Le tirage au sort a commencé aussitôt après. Mélanie, la sorcière pharmacienne, puisait des papiers dans deux chapeaux. Dans le premier se trouvaient les numéros des parcelles, dans le second, les noms des habitants. Elle disait des trucs comme « L'eau 6, famille Bousseillet »,« L'eau 7, les sœurs Morgane et Laura Pintard »,« L'eau 8 ». Poppy s'effrayait un passage dans la foule pour s'approcher de moi. Elle a murmuré « Ma grand-mère dit que c'est arrangé d'avance ». Le maire et la pharmacienne ont testé les parcelles en secret pour s'attribuer les meilleures. Cette loterie, c'est du pipeau. Depuis le début, je soupçonnais un truc de ce genre, car je n'avais confiance ni dans le maire ni dans la pharmacienne. Ces deux-là s'entendaient comme larrons en foire. Notre nom a enfin été proclamé. Papa se serait mis à courir si maman ne l'avait pas retenu. Notre parcelle mesurait, comme ses voisines, 15 mètres de côté. Apparemment, elle ne différait en rien des autres, sauf par le numéro tracé à la peinture blanche sur le beau velours rouge de la cape. Papa s'est agenouillé pour caresser le tissu magique. J'ai vu des étincelles crépiter sous sa paume. « Bon, » a-t-il soupiré, nous voilà à pied d'œuvre. Espérons que la chance était avec nous et que cette partie de la cape est fortement chargée en énergie magique. Je me sentais un peu idiote assise au milieu de cette marelle. Autour de nous, les gens évitaient de se regarder et chuchotaient comme des conspirateurs. Progressivement, la surface de la cape s'est retrouvée habitée. On aurait dit que tous les habitants du village s'étaient rassemblés pour un gigantesque pique-nique. Un pique-nique étrangement silencieux. Le géant dormait, ses ronflements faisaient autant de bruit qu'un moteur d'avion. « Et maintenant ?» a demandé ma mère d'une voix timide. « Qu'est-ce qu'on fait ?» La première des précautions à observer, a décidé pas, c'est d'élever un mur autour de notre carré. De cette manière, nous pourrons travailler sans être espionnés par nos voisins. Il a posé la main sur le velours rouge et dit « Cap magique, dresse un rempart autour de nous. Je te l'ordonne. » Moi, j'aurais dit « s'il te plaît ». Mais bon. L'air a bourdonné, des étincelles ont crépité très fort, et soudain, nous nous sommes retrouvés enfermés au centre d'une espèce de cour fermée aux parois de pierre grise. « Eh !» s'est exclamé Man, « tu as oublié la porte, nous sommes emmurés. » Pa s'est senti idiot. Il a dû formuler un deuxième vœu pour qu'une porte de fer se dresse dans l'épaisseur de la muraille. J'étouffais, coincé entre ces quatre murs. J'ai réalisé que je n'avais pas envie de m'attarder là plus longtemps. J'ai annoncé que j'allais faire un tour avec Poppy. Pa ne m'a pas entendu. Il étalait déjà ses dessins sur le sol. « Il faut donner vie à nos petites créatures, » expliquait-il d'une voix haletante, « aux arbres, aux fleurs que nous avons inventées. Souviens-toi qu'il faudra se débrouiller pour les emporter avec nous quand sonnera l'heure de la fuite, » a souligné ma mère. « Le jardin merveilleux devra être démontable. Le mieux serait qu'il puisse tenir dans une malle, tu vois ?» J'ai ouvert la porte de fer et j'ai failli me cogner le nez sur une autre muraille. Les villageois nous avaient imités. Chaque parcelle était désormais ceinte de hauts murs que séparaient d'étroites ruelles. Pour quitter la surface de la cape, il fallait serpenter au long de ces passages entre les forteresses cubiques qu'étaient devenues les cases numérotées. J'ai pensé, la confiance règne. L'ennui, c'est que les ruelles finissaient par former un labyrinthe et que je me suis perdue. Au bout d'un quart d'heure, j'ai buté sur le garde-champêtre. « Qu'est-ce que tu fiches là » a-t-il lancé. « Les enfants n'ont rien à faire sur le territoire magique. Ils pourraient en gâcher l'énergie en multipliant les vœux imbéciles. » « Je n'ai fait aucun vœu, » ai-je protesté. « Tu as intérêt. Je vous ai à l'œil, vous les gosses. » Un vœu d'enfant, c'est facile à repérer. Si tu désobéis, je te mettrai en prison. Charmant. Finalement, j'ai réussi à sortir du labyrinthe pour retrouver Poppy, qui m'attendait au pied du trône de granit, le nez levé vers le géant endormi. 3 jours plus tard, c'était le délire. Tout a commencé par une tourelle de château, poussant soudain au milieu des murailles entassées sur la cape. Une tourelle très belle, ajourée, avec des sculptures en ivoire, des escaliers en marbre blanc, des vitraux en cristal. J'ai dit, c'est le château de la Belle au bois dormant. Ça faisait bizarre, ce truc. On aurait dit un poireau monté en graines. C'est Mélanie, la pharmacienne, qui a fait ça, a chuchoté Poppy. Elle a toujours eu la folie des grandeurs. En tout cas, je ne sais pas comment elle compte l'emporter sur son dos quand il faudra prendre la fuite. Le coup d'envoi était donné. Une heure plus tard, un villageois, vexé, fit sortir de terre un donjon de marbre noir dont chaque pierre présentait des ciselures à leur fin. Au sommet de ce machin, un pavillon flottait avec la mention « Justin, seigneur boulanger, comte de la baguette, baron du croissant, empereur du pain au raisin. » Nouvelle tour d'ivoire, incrustée de diamants qui étincelaient au soleil. Sur les remparts se dressait une statue d'or la représentant en châtelaine, coiffée d'un nain, un caducé à la main. Poppy a pouffé de rire. Le maire, lui, est entré dans une colère noire. « Cessez immédiatement ces gamineries » a-t-il hurlé en s'arrachant les cheveux. « Vous épuisez l'énergie magique. À ce rythme-là, le géant va mourir de vieillesse avant la fin de la semaine. Je vous ai demandé d'être raisonnable. Vous entendez raisonnable. » Il a raison, a renchéri Poppy. Si on pompe trop d'électricité magique, le géant s'affaiblit et meurt. C'est ma grand-mère Mathilda qui me l'a dit. Inquiète, je me suis rendue au pied du trône pour examiner le colosse endormi. Nom d'un haricot jaune, ai-je soufflé. Il a trois cheveux blancs qui n'étaient pas là hier. Regarde. Tu vois, a triomphé Poppy. Ma grand-mère a beau avoir rajeuni de 50 ans, elle dit toujours la vérité. Je me suis sentie triste. Je détestais ce qui était en train d'arriver. La prétention et la bêtise des villageois risquaient de tuer le géant dans son sommeil. C'était trop injuste. Mes parents, eux, se montraient plus raisonnables. Chaque fois que j'allais les voir, je les surprenais au milieu d'une foule de petits animaux bizarres. Des licornes rouges, pas plus grandes que ma main, et qui volaient dans les airs en chantant des refrains aigrelets. Des nains bleuâtres qui jouaient de la trompette avec leur nez. Des fleurs qui, en s'ouvrant, lançaient des feux d'artifice. Il y avait aussi des nuages pailletés d'or, des chats baromètres qui changeaient de couleur avec le temps. Et j'en oublie. Bien sûr, cette faune délirante sortait des croquis imaginés par mon père et ma mère. Le plus fou, c'est qu'il ne s'agissait plus d'automates ou de poupées articulées, comme il avait été prévu à l'origine. Grâce à la magie de la cape, ces créatures étaient vivantes. Elles existaient réellement. Tout ça peut tenir dans une malle, m'expliqua maman. Il nous suffira de leur ordonner de rapetisser. C'est la grande astuce, vois-tu? Un jardin merveilleux qui tient dans une valise. Nous sillonnerons le pays pour donner des représentations. Ce sera une vie merveilleuse, tu verras. Le roi nous invitera pour distraire les petites princesses. Nous deviendrons les chouchous de la cour. Ton père sera peut-être anobli. J'aurais voulu partager ces certitudes, mais un mauvais pressentiment me soufflait que la catastrophe annoncée par la valise ne tarderait plus à se produire. La cape était devenue une sorte d'échiquier formidable où se jouait une partie effrayante dont nous risquions d'être sous peu les victimes. Ce soir-là, j'essayais d'attirer l'attention de mes parents sur les exagérations des voisins, mais, absorbés par leur travail, ils n'avaient rien remarqué. De ce jour, les choses empirèrent. Les exhortations du maire n'avaient eu aucun effet sur la population des apprentis magiciens. Comme dit le proverbe, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Dès lors, il ne se passa pas une journée sans que je remarque une nouvelle aberration. Un matin, je vis la pharmacienne costumée en princesse, un diadème de rubis sur le front, qui survolait son château à cheval sur une licorne ailée aux sabots d'or pur. Une autre fois, je croisai Benoît, le charcutier. À demi étranglé dans une armure d'argent, il galopait dans un champ de pommes de terre en essayant de se donner des airs de chevalier. Il portait sur la hanche une épée d'or si lourde qu'il lui aurait été impossible de la sortir du fourreau. Toute cette ferraille était ornée d'un million de pierres précieuses. « Tiens, ricana Poppy, v'là Benoît, le baron de la saucisse, qui s'en va pourfendre les cochons. » Pendant ce temps, de nouveaux poils blancs apparaissaient dans la chevelure et la barbe du géant endormi. Bientôt, il aurait l'air d'un vieil homme. « L'énergie fiche le camp trop vite, » commenta Poppy. « Il aurait fallu la consommer lentement, à petite dose. Là, c'est comme si on lui tirait le sang à plein baquet. Il va mourir d'épuisement avant même de se réveiller. » Pour ma part, je continuais à vivre dans notre ancienne maison, toute seule, sauf quand ma copine venait m'y rejoindre. Au début, ce fut amusant, puis peu à peu, je vis que Poppy se renfrognait. Quelque chose la tracassait. Je lui demandais « À quoi tu penses ?»« Si les adultes s'offrent le droit de faire des bêtises, » répondit-elle, « pourquoi ne ferions-nous pas pareil »« Qu'as-tu en tête ?»« Je sais que le maire a interdit aux enfants de faire des vœux, mais j'ai bien envie de passer outre. »« Je crois que je vais demander à la cape de me rendre belle. Et mince. Très mince. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne servirait à rien de l'en dissuader et j'ai eu peur. Peur de perdre mon unique ami. Notre amitié survivrait-elle à sa transformation? Je n'en savais rien. Je le lui ai dit. Elle a grogné. C'est facile pour toi de dire ça. Tu es mignonne. Moi, j'ai l'air d'une truie. Je ne peux pas continuer ainsi. Je vais tenter le coup. Arrivera ce qui arrivera. Je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher, car c'est à ce moment précis que mes parents ont commencé à avoir des ennuis. Les voisins se plaignent, m'avoue maman, un matin que je leur apportais le panier repas de la journée. Ils prétendent que nos petites créatures grignotent les murailles des palais. Je fronçais les sourcils. J'avais examiné les manoirs en question, ils étaient tous en or. À présent, tout le monde, sauf ma famille, vivait dans un château. « Eh oui, soupira papa, je n'avais pas prévu cela. Je pensais les nourrir de saucissons ou de pâtés. J'avais oublié que les créatures magiques ne mangent que de l'or et des pierres précieuses. J'étais ébahie. Je n'avais jamais entendu parler de ça. « Ça pose un réel problème, murmura ma mère. Il y a beaucoup de plaintes, et nous ?» Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase, car quelqu'un se mit à donner des coups de poing dans la porte. J'allais ouvrir. C'était Mélanie, la pharmacienne, costumée en reine de carnaval, une couronne grosse comme une roue de charrette sur la tête, des diamants d'un kilo suspendus à chaque oreille. Elle m'écarta d'une main impatiente. « C'est inadmissible !» hurla-t-elle en se précipitant vers mes parents. « Vos raëlés ont dévoré cette nuit la statue d'or à mon effigie sur la tour nord de mon château. Elle me représente et elle n'a plus de nez. De quoi ai-je l'air à présent ? Ils ont également fait des trous dans mes murs pour grignoter les rubis et les émeraudes cousus sur mes robes d'apparat. J'exige que vous détruisiez ces horribles bestioles. Il n'en est pas question, répliqua mon père. D'abord, ce ne sont pas des rats mais des licornes volantes, pas plus grosses que ma main. Elles sont totalement inoffensives, mis à part le fait que, comme toutes les créatures nées de la magie, elles doivent se nourrir d'or et de joyaux pour survivre. Mélanie devint écarlate. La haine la défigura, et l'espace d'une seconde, elle fut d'une laideur atroce. « Très bien, hoqueta-t-elle. Si c'est la guerre que vous voulez, vous l'aurez. » Et elle s'en alla en claquant la porte. Je me suis souvenu des paroles du pauvre crapoton et j'ai compris que les choses allaient tourner au vinaigre. Ma mère, elle aussi, était très inquiète. Papa a essayé tant bien que mal de la rassurer, mais il était visible qu'il avait peur. Mélanie avait toujours eu mauvaise réputation au village. On la disait sotte, vaniteuse, prenant les gens pour des imbéciles. « Elle va se calmer, » répétait papa. « Elle va se calmer. » Comme vous vous en doutez, les choses ne s'arrangèrent pas. Le lendemain, les petites créatures créées par mes parents commencèrent à disparaître mystérieusement les unes après les autres. « J'ai trouvé des traces de sang sur les murs, » bredouilla maman en me serrant dans ses bras. Comme si une bête les avait attaquées pendant qu'elles escaladaient les parois qui encadrent la parcelle. « C'est cette damnée Mélanie, » gronda mon père. « Je suis sûre qu'elle a créé un animal volant qui dévore mes personnages. Je déteste cette femme. Si elle ne cesse pas immédiatement ses manigances, je me vengerai. « Je ferai naître un dragon qui mettra en pièces les tourelles de son ridicule château. » Les choses s'envenimaient. Toutefois, papa avait raison. Mélanie avait utilisé les ressources magiques de la cape pour fabriquer une espèce de corbeau géant, au long bec de fer, qui sortait de sa cachette dès qu'il apercevait l'une des petites créatures en train d'escalader les murailles du palais de la pharmacienne. Se laissant tomber dans le vide, il la transperçait alors d'un coup de bec, comme avec une épée. En l'espace de 3 jours, la moitié des personnages dessinés par mes parents étaient morts. Leurs rêves s'effondraient. Mon père entra dans une rage folle. Comble de malchance, alors que je regagnais la maison familiale pour préparer un nouveau panier repas, je croisai le garde champêtre qui emmenait, menotte au poing, une très belle jeune fille à la prison du village. Je n'avais jamais vu cette adolescente auparavant et j'en fus étonnée, car elle était d'une incroyable beauté. « Nouchka ! » cria-t-elle en m'apercevant. « C'est moi, Poppy ! Préviens ma grand-mère, ils vont m'enfermer !»« C'est la loi !» gronda le garde. « Tu n'avais pas à l'enfreindre. » Le maire l'a répété, les enfants n'ont pas le droit d'utiliser la cape magique. J'en restais ébahi, bouche béante. Poppy, cette princesse aux longs cheveux blonds, aux yeux bleu ciel. Avant que je sois revenu de ma surprise, le garde l'avait poussée à l'intérieur de la prison. J'eus beau tambouriner à la porte, il ne m'ouvrit pas. En désespoir de cause, je me rendis chez sa grand-mère qui habitait une maisonnette à demi effondrée à la sortie sud du hameau. Je me rappelai qu'elle se nommait Mathilda et qu'elle devait avoir aujourd'hui 20 ans, puisqu'elle avait profité de ses privilèges de repasseuse pour rajeunir. Toutefois, la barrière poussée, j'eus la surprise de découvrir une gamine de mon âge qui bronzait dans le jardin, en bikini jaune, allongée sur une chaise longue, en feuilletant une revue de mode. « Je cherche Madame Mathilda, lançai-je. Sais-tu où je pourrais la trouver ?»« C'est moi, » répondit la gosse qui était fort mignonne, il faut l'avouer. « Quoi ? Hoquetai-je. Vous êtes la grand-mère de Poppy ?»«
Oui, » avoua l'adolescente en rougissant. Je n'ai pas pu m'empêcher de retourner sur la cape. Ça a été plus fort que moi. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Faudrait voir à vous arrêter là, et je lançai, agacé. Si vous devenez encore plus jeune, Poppy devra vous donner le biberon.
Je sais, soupira Mathilda, mais la jeunesse, c'est trop cool. C'est comme une drogue. Quand on y a goûté, on ne peut plus s'arrêter. J'avais oublié quel effet ça faisait. J'étais embêtée. Mathilda avait l'air d'une fille de mon âge. Mais je savais qu'une semaine auparavant, elle avait encore 75 ans. Pour cacher ma gêne, je lui ai appris que Poppy était en prison. Ça devait arriver, a-t-elle bredouillé. Tous les villages qui ont commis l'erreur de capturer un géant l'ont chèrement payé. La magie va tous nous rendre fous.